à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeurs de Caledma Radio, bonjour, vous écoutez à 23 pas du mystère, votre émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. C'est l'automne et nous sommes partis pour une saison donc radiophonique. On avait commencé déjà le mois dernier, hein, mais c'était encore l'été, donc maintenant on passe aux choses sérieuses. La question c'est, mais de quoi va-t-on parler ce mois-ci? Mais pour avoir la réponse, il faut donner la parole au maître de ces lieux, le maître Jérôme.
Bienvenue à 23 pas du mystère. Alors, en ce mois d'octobre, nous allons retourner au 19e siècle, au début de la littérature policière, au début avec pluriel, avec la suite de notre entretien avec André Marc-Aimé, anthologiste et archéologue de la littérature policière. Et ensuite, vous retrouverez la partie chronique avec les fidèles Geek Patrick, Miss Lemon et le petit nouveau Tom Pouce. Vous entendrez la deuxième partie de la chronique de Geek Patrick consacrée au cycle des robots d'Isaac Asimov, débuté le mois dernier. J'espère que vous n'avez pas oublié.
On fera un petit rappel.
Miss Lemon nous emmènera dans l'Allemagne tourmentée des années 1970. Et Tom Pouce vous présentera un personnage de petit format de bande dessinée qui voyage bien contre son gré dans le temps. Voilà, c'est parti pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Alors, pour cette archéologie du roman policier, deuxième partie, nous reprenons l'entretien dont la première partie a été diffusée le mois dernier, je vous le rappelle. Donc, entretien avec André Marc-Aimé, membre de l'association 813, les Amis des littératures policières, animateur d'une émission radiophonique, Un dernier polar pour la route, sur la radio associative D4B à Mel, dans les Deux-Sèvres, et ce qui nous intéresse ici principalement, archéologue de la littérature policière. Donc le mois dernier, nous avons évoqué la période romantique jusqu'aux années 1850, dans les aires géographiques et linguistiques germaniques, anglo-saxonnes et francophones. Et bien ce mois-ci, nous allons évoquer plus précisément l'ère anglo-saxonne, avec en Angleterre les personnages de Waters et Richmond, et le romancier William Wilkie Collins. Et puis, nous irons aussi un peu aux États-Unis où nous rencontrerons Edgar Poe et deux personnages, Nick Carter et Old Sleuth. Envoyons la deuxième partie de cette interview.
C'est parti.
La deuxième moitié du 19e siècle, 1850, est le début de l'enquêteur qui va apparaître tout d'abord, en dehors d'Edgar Poe, qui va apparaître en Angleterre. C'est un Anglais quasiment inconnu qui s'appelle William Russell. Qui crée des histoires, des séries, lui aussi.
Pardon, ce qui est important aussi dans le phénomène de l'enquêteur, c'est qu'on a un enquêteur qui apparaît de manière récurrente, donc qui devient un personnage sériel, hein, un personnage de série, comme on les connaît dans la littérature policière plus tardive. Voilà. Mais on a déjà à cette période des enquêteurs. Bon, Dupin, c'est un peu limité, parce qu'il a trois enquêtes dans lesquelles il apparaît. Mais donc le personnage dont tu vas nous parler, lui, est un des premiers personnages de série, finalement.
Voilà, le personnage policier de William Russell, qui s'appelle Waters. Mm-hmm. Il a juste ce nom. Et il va apparaître dans divers récits de façon récurrente. Alors, une douzaine de nouvelles dans un premier temps, sur 3 ans.
Donc ça serait quelle date, ça?
Alors, 1849, 1850, 1851. Et en 1852, l'auteur a écrit une douzaine de nouvelles avec ce personnage, intéressant, mais bon, voilà, quelconque. D'un autre côté, c'est un enquêteur policier qui réussit toutes ses enquêtes, même si, avec les difficultés, il arrête des voleurs, des escrocs. Il défend la veuve et l'orphelin, il sort du romantisme, mais l'auteur veut passer à autre chose et enchaîne sur d'autres personnages qui vont être des marins. Et parallèlement, au moment où il arrête ce personnage, aux États-Unis, En fait, les États-Unis ont repris les aventures de Waters et en ont fait un recueil de nouvelles qui se vend bien. Qui se vend bien. Et du coup, le...
Parce que Waters, pardon, il était, lui, paru dans la...
Il paraissait qu'en magazine.
Ouais, c'est ça.
Dans le Chambers Edinburgh Journal, donc le journal écossais. Les Américains se servent de Waters pour le sortir en recueil. Et le recueil se vend comme des petits pains.
Donc lance la mode, ce qu'on appelle la littérature de détective, detective fiction.
Voilà, donc Waters est un officier de police détective. Et du coup, en Angleterre, on va, avec un temps de retard, sortir les aventures de Waters en recueil. Et donc, c'est ainsi que le premier détective aventure suivie va essaimer. Au début, tout doucement, dans les années 50, puis va être traduit en français, va être traduit en allemand, va être traduit en flamand, et du coup va provoquer la naissance d'autres détectives.
Est-ce qu'il n'y avait pas eu un confrère un peu avant qui s'appelait Richmond, ce détective Waters?
Voilà, tout à fait.
Qui lui était avant Edgar Poe, il me semble même, Richmond.
Tout à fait. Donc, Waters, officier de police, détective d'action sur le terrain, avait un ancêtre anglais. Donc, c'était un roman anonyme qui est paru en 1827, donc bien avant Edgar Poe, et qui était composé pour moitié d'aventures un peu de jeune homme, un peu à la manière des romans picaresques, voilà. Et la deuxième moitié qui est constituée de cinq aventures de Richmond, Tom Richmond il s'appelle, dans son métier d'officier de police. Et à la fois, il est engagé comme ça, sans diplôme, et à la fois il assure son travail correctement. Quoi.
Alors lui, il fait partie d'un corps de police qui précède Scotland Yard, qui s'appelait les Bow Street Runners. C'est ça qui est la première unité de police à Londres.
Voilà, les Bow Street Runners, parce que le QG, le quartier général de la police londonienne, était à Bow Street, c'est une rue, et du coup, c'était le nom du poste de police de cette rue, et qui est supplanté dans les années 1800, à la fin des années 1820, par Scotland Yard, qui est dans un autre quartier.
Donc là, on a clairement une filiation quand même, même s'il y a une dizaine d'années entre les deux recueils, enfin, entre Richmond et Waters, a quand même la mise en place d'une série d'enquêteurs, et cela avant Edgar Poe.
Tom Richmond était avant, et Waters est post-Edgar Poe, mais semble plus s'inspirer de Richmond pour le terrain et la manière.
Que d'Edgar Poe.
Voilà, c'est un détective d'action, et pas un cérébral.
Et de la police officielle, contrairement à Dupin, qui lui est un enquêteur amateur.
Voilà, tout à fait. Disons que Waters, quand il est... soit ses missions lui sont données par ses supérieurs, soit s'il se trouve dans une situation à intervenir, il va aller vérifier auprès de ses supérieurs qu'il est couvert pour cette nouvelle mission.
Donc on a effectivement une tradition plutôt de récit d'enquête avec détectives récurrents en Angleterre qui se met en place à cette période.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est cette diffusion de l'enquêteur anglais, Waters, va se faire en France via Alexandre Dumas à la fin des années 50. Et puis, avait été faite en Allemagne dès le début de son apparition en 1850.
Donc, on avait déjà la mise en place d'une culture européenne dès l'époque avec des jeux d'influence aussi, une diffusion de certaines séries, et puis peut-être des influences aussi, parce que est-ce qu'après on se met à écrire plus d'histoires détectives en Allemagne et en France, après l'arrivée de ces séries anglaises
Voilà, c'est surtout dans les pays anglo-saxons que ça va se développer. Enfin, les États-Unis sont très friands, très demandeurs d'histoires de détectives.
Ouais.
Du coup, ils vont essayer d'importer ce qui ressemble de près ou de loin aux histoires de détectives qui viennent d'avoir du succès via Waters.
D'accord. Et donc là, juste pour resituer, on est bien avant Sherlock Holmes. Hein. On a déjà des détectives anglais avant Sherlock Holmes.
Voilà, tout à fait.
Qui n'est pas non plus le premier détective privé.
Voilà, là, on est donc 30 ans, une génération avant Sherlock Holmes.
Ouais. Donc, puisque Holmes étant un des grands référents aussi de l'histoire du roman policier, enfin de la littérature policière, c'est intéressant de voir qu'il y a eu avant Sherlock Holmes d'autres détectives qui sont un peu tombés dans l'oubli par rapport au personnage de Conan Doyle.
À 23 pas du mystère.
Calade.
Alors, je vous propose de rester encore un peu dans l'ambiance de la période romantique en écoutant un morceau du compositeur romantique par excellence, hein, on ne va pas vous le faire mystérieux, Franz Schubert.
Écoutez, à 23 pas du mystère sur Calade Radio, notre émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Alors dites-moi, mon cher Jérôme, maître de ces lieux, que venons-nous d'écouter ?
Eh bien, c'était un extrait du deuxième mouvement, l'Adagio précisément, du quintette à deux violoncelles en ut majeur D956 de Franz Schubert, ici dans la version du Quatuor Eben, enregistré en 2016 chez Erato.
Voilà, je suis épaté.
Voilà, il a ses notes. Après,
non, il est trop fort.
Eben, c'est trop bien.
Ouais. Alors, à présent, nous allons retrouver André Marc-Aimé, notre invité, avec qui, je vous le rappelle, nous explorons les débuts de la littérature policière dans l'ère anglo-saxonne, à partir de la période romantique.
C'est parti.
Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Donc, on publie des récits en provenance d'Angleterre.
Alors, aux États-Unis, on importe tout ce qui sort d'Angleterre, en premier lieu, mais via l'immigration qui vient de tous les pays d'Europe, ouais. D'Irlande, d'Allemagne, de France, en fait, toutes les littératures se retrouvent aux États-Unis. Et dans de nombreux textes allemands romantiques, il y a des personnages qui émigrent aux États-Unis. On retrouve cette émigration dans les fictions. Soit d'ailleurs, pas toujours volontaire, souvent c'est pour échapper à... des actions de justice que les personnages sont chassés, entre guillemets, aux États-Unis.
Alors, si on veut revenir à Dupin et Edgar Poe, donc finalement, Edgar Poe qui est présenté comme le grand créateur de la littérature policière, qu'est-ce qu'il a réellement créé, finalement? Parce qu'il a quand même été influencé par toutes ces traductions ou publications en provenance d'Europe.
Oui, tout à fait.
Avant que lui-même n'écrive. Ils sont apparus avant que lui-même n'écrive ces nouvelles.
Tout à fait.
Comment tu pourrais nous le situer, Edgar Poe?
En fait, Edgar Poe s'est inspiré de tout ce qu'il avait à sa disposition via le Blackwood Magazine qui venait d'Angleterre, mais via les traductions françaises, allemandes à sa disposition. Et en fait, son détective qui nous paraît innovant est en fait jamais qu'un... proportion gardée.
Composé de différents personnages.
Voilà, et composé de... Il fait une synthèse, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il fait la synthèse de ce qui existait en Europe. Lui, l'Américain. Ce qui paraît paradoxal, mais en fait, il avait le recul pour synthétiser l'ensemble.
Parce que dans un de tes écrits, tu vas même plus loin, en fait, en comparant des textes, notamment des emprunts que Poe aurait fait au visionnaire, non?
Voilà.
Et à Mademoiselle de Scudéry.
En fait, une
comparaison assez pointue.
En fait, le héros de Edgar Poe, qui s'appelle Charles-Auguste Dupin, donc, sa présentation est calquée sur le visionnaire de Schiller, qui remonte à 50 ans avant. Mais en fait, il y a aussi une histoire extraordinaire avec des événements extraordinaires, et ça va donner le côté extraordinaire à l'enquête qui manque aux autres, entre guillemets, et d'où l'innovation de Poe, entre guillemets.
Mais montres même qu'il y avait déjà le narrateur et l'ami du héros dans le visionnaire,
voilà,
c'est ça?
Voilà, tout à fait, dans le visionnaire, dans le visionnaire comme chez Poe, il y a le couple narrateur et le jeune homme compagnon qui a le raisonnement déductif nécessaire à l'enquêteur, au super enquêteur entre guillemets. Et il y a le même couple dans Schiller, le visionnaire, et dans Edgar Poe, et qu'on retrouvera bien sûr dans Sherlock Holmes avec le docteur Watson qui sera reproduit. Mais dans l'immédiat, Edgar Poe n'a pas de successeur aux États-Unis. C'est comme s'il était en avance de 50 ans, et il est trop intellectuel pour le lectorat américain, qui va préférer les histoires de Waters qu'on a vues, parce que c'est l'enquêteur lambda de terrain, et il n'est pas dans la réflexion de telle manière.
Et j'avais noté que Poe avait même un prédécesseur américain, William Burton, qui avait écrit quelques contes en 1838, qui était extrait, alors c'était l'intitulé de la série, un journal d'un homme de loi de Philadelphie, en fait, qui était des contes déjà dans l'esprit enquête.
C'était déjà une histoire.
Qui était avant
une série.
Edgar Poe, 1838, écrite par un Américain. Donc, il aurait eu des prédécesseurs à la fois européens et américains, même, bien qu'ils aient été beaucoup moins connus que lui.
William Burton était un Anglais qui avait émigré, un homme de théâtre qui avait émigré aux États-Unis et fait un journal. Et effectivement, à cette époque-là, il mêle dans son journal des histoires de policiers, d'hommes de loi, de séries. Il reprend même une série anglaise, que c'était les contes du bureau de police qui se passent en France, mais bon, des petites historiettes sans grande prétention, et il les transforme en mémoire non publiée de Vidocq, alors que ça n'avait rien à voir, mais c'était le nom de Vidocq qui faisait vendre.
D'accord.
Et sûrement qu'Edgar Poe, pour répondre à ses essais de l'histoire d'enquêteur qui était plus ou moins bancale, a sûrement créé le double assassinat à la rue Morgue avec le chevalier Dupin. Ouais. Peut-être, c'est une hypothèse.
Et donc, ouais, tu dis, après Edgar Poe, s'il y a un vide un petit peu dans l'enquêteur américain, après, on retrouvera peut-être des personnages, alors une filiation plus lointaine, ça va être des personnages de dime novels comme Old Sleuth, le vieux limier, et après Nick Carter, le fameux Nick Carter, le grand détective qui est à la fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises, au début 90, et qui va vivre presque un siècle d'aventures policières, qui est un détective un peu terrain, quoi, qui enquête un peu, mais qui a aussi beaucoup d'action et qui a été énormément populaire, non seulement en roman, enfin en nouvel roman, mais aussi dans plein d'autres médias, cinéma, télévision, radio, etc. On a peut-être une filiation aussi sur le détective en Amérique.
Alors, il y a deux choses. Il y a la filiation américaine. Il y a donc, d'une part... Edgar Poe qui se retrouve sans filiation européenne. Du coup, la descendance d'Edgar Poe va être européenne avec Gaborio, Sherlock Holmes. Et en fait, les États-Unis qui sont plus amateurs de... On le voit d'ailleurs sur les images, parce que souvent les récits américains de héros américains, ils ont tous un revolver souvent à la main, alors que le héros d'Edgar Poe, il est plus posé, plus pondéré. Et en fait, au niveau littérature typiquement américaine, on aura les histoires de Pinkerton, là. Ouais. Donc, Alan Pinkerton, c'était une agence de détectives privés dans les années 1850 ou 1860, enfin vers là.
Il a commencé à travailler pendant la guerre civile pour le système de service d'espionnage du gouvernement. Voilà. Et ensuite, s'est développé après la guerre comme agence de police privée.
Et qui, alors je crois que dans les années 1870, qui vont éditer des aventures qui seront plus ou moins inspirées de leurs enquêtes, illustrées par contre dans les belles éditions et tout ça, illustrées et après, effectivement, on aura Nick Carter, Old Sleuth, mais qui sont plutôt par filiation interposée, si on veut, qui sont plutôt des descendants du détective d'action anglais, Stillwaters, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui marchait bien.
Pour revenir un peu en Europe, on peut aussi indiquer qu'il y avait un grand nom qu'on rencontre souvent dans les histoires, c'est Wilkie Collins. En Angleterre, qui vient un peu après, à partir des années 1850, qui écrit des nouvelles.
Voilà.
Alors, Wilkie Collins,
écrivain victorien, très important, et qui a le ami de Dickens, pour le situer, de Charles Dickens, et qui a un style, comment dire, autant Waters, il raconte ses histoires, mais c'est pas de la grande littérature, dirons-nous, autant Wilkie Collins, il sait écrire, et donc juste dans la foulée de Waters, enfin de William Russell, son vrai nom, Wilkie Collins va aussi écrire des nouvelles où il va mettre en scène des enquêteurs. Ouais. Par contre, c'est pas des enquêteurs récurrents, et il ne va pas y avoir un enquêteur qui va revenir, à chaque fois c'est un enquêteur différent. Mais dans ces nouvelles, alors ça peut être une enquêtrice amateur, Anne Rodaway, dans une excellente nouvelle qui s'appelle Le Journal d'Anne Rodaway, et une enquêtrice amateur qui enquête sur la mort suspecte d'une de ses amies. Après, il y a des hommes de loi qui enquêtent sur des maris bigames, c'est à la fois très, très bien écrit et très bonnes intrigues. Il a écrit 7-8 nouvelles comme ça, Wilkie Collins, avant de se lancer dans le roman.
Voilà, qui précède ses grands romans.
Ces grands romans qui sont un peu les grands thrillers victoriens de l'époque, La Dame en Blanc, Pierre de Lune, qu'on peut relire aujourd'hui, qui étaient distribués par les éditions Phébus. Et qui sont pour ces deux-là, qui sont parmi les plus connus, et qui étaient le concurrent de Gaborio, si on veut aller par là. Contemporains. Contemporain de Gaborio.
Avec ce qu'on appelait les nouvelles à sensation.
Voilà,
chez les Anglais.
Le roman à sensation, mais pour nous, ce serait aussi le thriller. Enfin, le roman à sensation, eux, ils appelaient ça le sensational novel.
Eh bien, c'en est terminé avec l'interview de André-Marc Aimé.
Alors, terminé, oui et non, parce que nous retrouverons le mois prochain André-Marc pour la suite et fin, cette fois, de cet entretien sur les débuts de la littérature populaire en Occident, policière en Occident, pardon. Oui, mais au long cours, mais il y a beaucoup de choses à dire.
Tout à fait.
Où là, on traitera de la France, du cas de la France, plus spécifiquement.
Enfin.
Et on conclura aussi sur le sujet. Alors, pour conclure aujourd'hui cette partie, eh bien, nous vous proposons un extrait de la fameuse nouvelle d'Edgar Poe, dont il a été question à plusieurs reprises au cours de l'entretien, « Le double assassinat de la rue Morgue » dans une version radiophonique de 1958. Un extrait.
Vers 3 heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés en sursaut par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du 4e étage d'une maison de la rue Morgue que l'on savait occupée en totalité par une dame Lespanet et sa fille, mademoiselle Camille Lespanet. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince et 8 ou 10 voisins entrèrent accompagnés de 2 gendarmes. Cependant, les cris avaient cessé, mais au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au premier étage, on distingua 2 fortes voix, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient cessé et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se répandirent de chambre en chambre, arrivés à une vaste pièce située sur le derrière, au 4e étage, et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans. Ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La chambre était dans le plus grand désordre, les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens. Il n'y avait qu'un lit, les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, 3 longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été arrachées violemment avec leurs racines. On ne trouva aucune trace de Madame Lespanet, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer. On fit une recherche dans la cheminée et, chose horrible à dire, on en retira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduit de force et poussé par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré. La figure portait quelques fortes égratignures et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes taches d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée située sur les derrières du bâtiment. Là gisait le corps de la vieille dame, avec la gorge si parfaitement coupée que quand on essaya de le relever, la tête se détacha du tronc.
Eh bien, après cette scène
croustillante
d'horreur, n'attendons plus, place aux chroniques.
À 23 pas du mystère.
Calade. Eh bien, notre équipe de chroniqueurs est dans les starting blocks pour vous emmener d'une part dans un futur lointain peuplé de robots. Ça, ce sera avec Geek Patrick. Ensuite, dans l'Allemagne de l'Ouest des années 1970 avec Miss Lemon. Et puis, à toutes les périodes de l'histoire avec Tom Pouce. Alors, commençons avec Geek Patrick qui poursuit son exploration d'un classique de la SF qui est tout à fait d'actualité. Puisqu'il a pour sujet les robots et leur place dans la société humaine. La chronique de Geek Patrick.
Coucou Miss Lemon.
Bonjour Geek Patrick. Alors le mois dernier, tu as commencé à nous parler du célèbre cycle des robots d'Isaac Asimov. Tu nous as présenté, pour récapituler, le volume 1 qui rassemblait les premières nouvelles écrites entre 1939 et 1977. Mm-hmm. Et puis 2 romans, Les Cavernes d'Acier et Face au Feu du Soleil, écrits mm-hmm. tous les deux dans les années 50. Tu nous as présenté Les Robots de l'Aube, le premier des 2 romans qui constitue le volume 2. Alors à maintenant...
J'avais bien bossé. Hein.
Bah ouais, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a terminé? Ça, c'est ma question.
Non, on n'a pas terminé.
Ah,
mais
bon.
Pour cette deuxième chronique, on va parler d'un seul roman, le dernier du cycle des robots, qui s'appelle Les Robots et l'Empire.
Oh, c'est soft alors.
Alors, il a été publié en 85. L'histoire se passe 160 ans après le décès du héros, l'enquêteur terrien Elijah Bailey, qui était le héros des 3 premiers romans. La femme là, qui est sur la planète Solaria Gladia, puis qui est partie sur Aurora Gladia, qui est tombée amoureuse de lui, elle a maintenant 230 ans, parce que oui, les habitants, les ex-terriens qui habitaient donc les planètes qu'ils ont conquises vivent beaucoup plus longtemps que les terriens qui, eux, restent encore à 80 ans de durée de vie moyenne.
En effet.
Elle a d'ailleurs l'apparence d'une femme de 50 ans.
Trop
elle vit
bien.
Seule, cool, Et elle est toujours accompagnée des deux robots qu'elle avait, Giscard, oui c'est Giscard, un des deux, et celui qui ressemble à un être humain à s'y méprendre, c'est Danel, l'humanoïde. Alors le personnage important d'Aurora, lors du roman précédent, le docteur Falstaff, est mort depuis peu, et la situation politique sur la planète Aurora est désormais plutôt en faveur du camp qui était opposé à Falstaff, le camp qui hait les Terriens, ils haïssent les Terriens. Mais durant ces 160 ans qui se sont passés entre temps, eh bien la victoire de Falstaff, qui avait été confortée par l'enquête d'Elijah Belek, qu'il avait innocenté, cette victoire avait permis aux Terriens de se disséminer dans la galaxie et de créer de nouvelles civilisations. Alors, pour faire la différence entre les 50 premières planètes qui avaient été colonisées, les 50 premières, on les appelle les Spatiens. Et les nouvelles planètes colonisées par les Terriens depuis 160 ans, on les appelle les Coloniens. D'accord ? Et devinez quoi ? Les Spatiens détestent les Coloniens.
Oh, étrange.
Oui, parce qu'en fait, pour les Spatiens, les Coloniens, qui sont donc des Terriens récents, ne sont que d'affreux Terriens arriérés. Voilà.
Ok.
Mais ce qu'on va découvrir, en fait, dans ce roman où Gladia va être embarquée dans des aventures avec un descendant d'Elijah, c'est que les Coloniens, de leur côté, nourrissent aussi de très forts préjugés contre les Spatiens et contre les robots. En fait, ils ont des préjugés contre les Spatiens parce que les Spatiens ont énormément de robots à leur service, tandis que les Terriens et les Coloniens refusent les robots. Et ils ont aussi des préjugés, je vous dirai pourquoi un peu après, ils les considèrent, les Spatiens, comme décadents et voués à disparaître.
Alors, tout ce beau monde se méprise réciproquement. Bizarre, bizarre. Donc, pourquoi les Coloniens méprisent-ils les Spatiens ? Donc, ça, c'est ce que tu viens de nous expliquer.
Oui, mais pas seulement. À cause des robots, on le sait, parce qu'ils considèrent que les robots surprotègent les Spatiens et ils font d'eux des êtres faibles, qui ont perdu la volonté d'entreprendre, la volonté de découvrir, la volonté de prendre des risques. Et cet élément de faiblesse, les Coloniens disent qu'il est aggravé par leur atout principal, qui est la vie très longue des Spatiens. Les Spatiens vivent jusqu'à 350 ans. Mais pour les Coloniens, c'est un élément affaiblissant parce qu'en fait, ça fait des êtres humains qui s'ennuient dans une vie ultra sécurisée, ultra confortable, où on perd quelque part tout désir.
Ah, ça fait un petit peu résonance à notre dépendance à la techno, sauf qu'on ne vit pas aussi longtemps.
Ouais,
mais bon,
fait.
Qu'est-ce qui se passe finalement dans ce roman ?
Alors, il se passe plein de trucs et plein de rebondissements, mais je ne vais pas en parler.
Ah bah d'accord, donc, donc tu ne vas pas spoiler, ça m'ennuie quand même.
Exactement, je suis un expert, je suis devenu un expert du no-spoil, exactement. Mais j'ai plein de trucs à dire quand même, t'inquiète pas. En fait, ce qui nous frappe dans ce dernier volume du cycle des robots, qui je rappelle s'appelle Les robots et l'Empire, c'est à quel point du côté des héros, hein, maintenant qu'Elijah Belek n'est plus là, les humains qui sont au centre de l'action, qui sont censés être les héros, il y a Gladiad et le descendant de Belek. Mais ces héros, en fait, ils sont en fait des pions dans un véritable combat qui se déroule dans leur dos. Alors, combat entre qui et qui ? Entre d'un côté, donc, le docteur Amadiro et son complice, le génial scientifique Mandamus, qui sont donc les adversaires des Terriens et des Coloniens. Et de l'autre côté, les deux robots de Gladia, Giscard et Danel. Et ce sont eux qui vont mener le vrai combat, sans que Gladia et le descendant terrien d'Elijah ne s'en doutent jamais. Vous allez me dire, c'est quoi l'enjeu de ce combat caché, de ce jeu d'échecs caché ? Eh bien, c'est rien d'autre que le destin de la galaxie. La question, c'est, la galaxie sera-t-elle aux mains des colons terriens ? Les Coloniens, ou des colons spatiens.
D'accord, donc ça c'est le fil rouge qui t'intéresse, le lien entre les cycles des robots et le cycle de fondation.
Ah oui, parce que là on va vers la constitution de cet empire qui sera au cœur du cycle de fondation. Alors c'est vrai que ce dernier volume, Les robots et l'Empire, est un livre très bavard, basé sur des discussions parfois interminables entre les deux robots notamment. Mais c'est justement ces discussions qui vont amener Danel, humanoïde, à une réflexion qui générera finalement une vraie révolution. Le robot Danel prend peu à peu conscience que les trois lois de la robotique que j'avais évoquées précédemment, on va revenir dessus, doivent être finalement mises sous la tutelle d'une loi prioritaire qu'il va appeler la loi zéro. Mais avant de vous la formuler, je vais vous citer le déclencheur de cette prise de conscience. Ce déclencheur, c'est rien d'autre que le moment de la mort d'Elijah. Danel est sur son lit est devant lui, hein, sur son lit de mort. Et Elijah va faire une confession à Danel. Alors j'ouvre les guillemets et c'est Elijah sur son lit de mort qui parle. « Ma mort est sans importance, Danel. La mort d'aucun individu parmi les humains n'est importante. Lorsqu'on meurt et qu'on laisse une œuvre derrière soi, on ne meurt pas complètement. On ne meurt pas totalement tant que demeure l'humanité. L'œuvre de chaque individu apporte sa contribution à l'ensemble et devient ainsi une part immortelle du tout. » Une vie individuelle est un fil de la tapisserie. Et qu'est-ce qu'un fil en comparaison de l'ensemble ?
D'accord, donc on retrouve la dimension du collectif que tu as évoquée le mois dernier.
Ouais, et au-delà de la seule question de la science, Isaac Asimov, il étend cette philosophie, on pourrait presque parler de mystique, cette philosophie du collectif à l'ensemble de l'œuvre de l'humanité. Et j'avoue modestement partager cette philosophie, et j'avais fait un certain nombre de chroniques sous mon autre personnalité multiple, Prof Patrick, qui parlait exactement de ça. À rebours du storytelling matraqué en permanence par les médias, l'humanité ne progresse en fait que par le collectif. Le plus beau mot dans toutes les langues, c'est « ensemble ».
Très bien, ok, je suis d'accord aussi avec toi. Et en fait, qu'en est-il de la loi zéro ?
Oui, on va revenir sur cette fameuse loi zéro. Donc, Danel, il va longuement méditer ces mots que lui sort Elijah Bailey sur son lit de mort. Et ça va l'amener à formuler la loi zéro, j'ouvre les guillemets. « Un robot ne doit causer aucun mal à l'humanité ou, faute d'intervenir, de permettre que l'humanité souffre d'un mal. » Fermons les guillemets. Et cette loi, selon Danel, doit être prioritaire sur la première loi. Alors, je vous rappelle que la première loi de la robotique, c'est « un robot n'a pas le droit de causer de mal à un être humain. » Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est désormais licite, selon la loi zéro, de faire du mal à un humain ou de laisser faire du mal à un humain si ne pas le faire violait la loi zéro. Donc là, auditeur de Calanma Radio, ce que vous devez bien comprendre, parce que là, je sens que vos neurones sont en train de fumer, donc mettez un peu de glace autour des oreilles, c'est que les trois lois de la robotique ne sont pas l'équivalent du respect de la loi pour les humains. Nous, on s'en fout de la loi. Si on peut tricher sans être attrapé par la maréchaussée, on va pas se gêner, on est des êtres humains.
Tu parles des hommes politiques, là.
Non, on parle de tous les êtres humains, faut être sérieux. Par contre, un robot, c'est pas la même chose. Si les robots ne respectent pas une des trois lois, notamment la première, ne pas faire de mal à un humain, ils ont un cerveau qui est un cerveau positronique, et bien ce cerveau, il implose, messieurs, dames. Alors, je simplifie, hein. Mais ça veut dire que le robot est irréversiblement endommagé, sans possibilité de réparation. S'il ne respecte pas la loi ne pas faire de mal à un humain, le robot meurt.
Donc la loi zéro complique sérieusement l'affaire, en fait.
Bah exactement. Isaac Asimov ne va pas cacher la fragilité de la loi zéro, puisqu'il la fait remettre en cause immédiatement par l'autre robot, Giscard. Giscard, il répond, il dit « Mais attends, qui va définir la notion d'humanité ? Et puis comment être certain que telle action est préjudiciable pour l'humanité ?» etc., etc. Donc on voit que rien n'est simple, mais la porte est ouverte vers une évolution de la philosophie et de la réflexion, enfin de la philosophie qui mènera les robots. Enfin, un autre fil de réflexion parcourt tout ce dernier volume du cycle des robots, c'est la réflexion sur la nécessaire construction des lois de l'humanité, à l'image des lois de la robotique.
Ce qu'on appelle la fameuse psychohistoire.
Et voilà, on rebondit à nouveau sur un fil majeur qui va être au centre du cycle de fondation. La psychohistoire dans le cycle de fondation, imaginez, c'est une sorte de mélange, de mariage entre les mathématiques et la sociologie. Et donc, cette idée émerge peu à peu de la prise de conscience par les deux robots, Danel et Giscard, de la possibilité de manipuler de grandes quantités d'êtres humains par petites touches, et la possibilité donc d'infléchir le cours des événements, le cours de l'histoire.
Ah oui, sans faire de mal à l'humanité.
Voilà. Mais, auditeurs de Calanma Radio, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même en lisant ce roman que je recommande, qui est vraiment bien, Les robots et l'Empire, malgré son côté bavard. Sachez en tout cas que les rebondissements se prolongent littéralement jusqu'à la dernière page du roman. Et je peux pas, évidemment, spoiler, parce qu'ils sont vraiment... c'est des rebondissements en mode « Ah, on est sur le cul, quoi, quand même ». Ces rebondissements sont tous décisifs dans ce qui constituera la suite de l'œuvre immense d'Asimov, la naissance de l'Empire galactique.
Qu'on arrive à la fin de ta double chronique sur le cycle des robots d'Isaac Asimov, est-ce qu'il y aura une conclusion ?
J'en termine donc avec ces deux chroniques consacrées au cycle des robots. Je ne vous cacherai pas que les romans écrits dans les années 80 sont bien plus convaincants que tout ce qui précède, mais pour autant, c'est surtout les nouvelles d'Asimov qui ont mal vieilli. Les deux romans qu'il a écrits dans les années 50, Les cavernes d'acier et Face au feu du soleil, se laissent lire très agréablement, très facilement, notamment parce qu'elles ont un côté polar, enquête policière, qui nous permet de faire le lien avec notre émission, hein, à 23 pas du mystère. Et leur parfaite cohérence avec les deux romans suivants, qui ont été écrits donc, dans les années 80, fait que la lecture de ces quatre romans à la suite, c'est un grand plaisir et c'est une vraie émotion, assister à la construction d'un immense univers par un immense écrivain, Isaac Asimov. Voilà. J'en ai terminé, mais on n'en a jamais vraiment terminé avec Isaac Asimov. Donc, auditeur de Calanma Radio, petit rendez-vous. Début 2026, on continuera l'aventure Isaac Asimov et on parlera du cycle de fondation.
Donc, on n'a pas encore fini avec Isaac Asimov.
La chronique de Geek Patrick.
Autour de Miss Lemon, qui va nous dépayser en nous emmenant en Allemagne dans les années 1970, une Allemagne sous la menace terroriste.
L'étoffe d'un héros. Bonjour, Je suis toujours ravie de revoir l'équipe de À 23 pas du mystère dans cette super chronique d'automne. Alors pour cette chronique, j'ai remonté le cours de l'histoire pour arriver en 1974, comme l'a souligné Jérôme. Je suis quand même restée en Europe. L'action se passe plus précisément en Allemagne. Je vous aide un peu. Il s'agit d'un roman court, percutant. Son auteur a été prix Nobel littéraire. Il est question de l'honneur d'une femme qui vaut bien la vie d'un homme. Mais j'en ai déjà beaucoup dit. Alors, Jérôme et Patrick, nous allons découvrir si l'honneur de cette dame en fait l'étoffe d'une héroïne.
C'est quoi, c'est le générique, ça, de
non,
quelque chose ?
C'est quand même un extrait du hit parade de 1974 sur la CDF, donc la radio allemande.
Wow.
L'instant musical, donc, c'était Michael Holm, Tränen lügen nicht. Pour ceux qui ont fait de l'allemand, les larmes ne mentent pas.
D'accord.
Et j'étais sûre que vous alliez craquer. Je vois que vous êtes médusé.
Ouais, ouais, j'ai été un peu
interloqué.
Ça change un petit peu, hein, c'est vrai. Donc voilà, la vérité n'est pas toujours probable ou vraisemblable. Voilà une phrase qui m'a interpellée dans le roman que j'ai choisi pour cette chronique. Donc je n'ai toujours pas révélé le nom de cet auteur de littérature du XXe siècle, pas exactement un auteur de romans policiers, mais qui a pris la plume pour décrire comment une femme tirée de l'anonymat par la presse peut rencontrer tour à tour l'amour, le déshonneur, la désillusion, le chagrin, la haine et la violence. J'espère que vous aurez reconnu, les garçons, le roman d'Heinrich Böll.
Bah oui,
l'honneur perdu de Katharina Blum. Vous l'aviez peut-être même étudié, comme moi, plus jeune au collège.
Il n'y a pas eu une adaptation au ciné de ça ?
Ah si, il y a eu un grand film, tout à fait.
Je crois que je l'ai vu
tout
quand j'étais jeune, il y a quelques
dans
siècles.
Dans les années début 80.
Voilà, c'est ça.
Donc le titre complet est très intéressant, comme le roman d'ailleurs. L'honneur perdu de Katharina Blum, ou comment peut naître la violence et où elle peut conduire. Donc on va se pencher le temps de cette chronique sur le cas de Katharina Blum. Donc l'intrigue se déroule à Cologne en 74, c'est-à-dire dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, RFA. La période d'écriture correspond à une période très trouble dans le pays, avec la fraction armée rouge, la bande Abader. Et tous ces événements sont relayés par un journal classique qui existe toujours de nos jours, le journal Bild, qui renforce ses tirages avec des titres chocs, spectaculaires, etc. Donc à travers ce roman, Heinrich Böll cherche à dénoncer les excès du journalisme qui, au nom de la liberté de la presse, diffuse des articles chocs, diffamants et qui ne retracent pas toujours la vérité. Il est aussi question dans ce livre des relations entre les blocs capitalistes et communistes qui règlent leurs comptes par personnes interposées ou par petites remarques sur la vie passée des étudiants en Allemagne. Donc pour Katharina Blum, on va revenir donc dans son sac, comme d'habitude, j'ai fouillé son sac, on a trouvé une tenue de carnaval. Alors en 74, en plus d'une super chanson, on avait des tenues de bédouines qui étaient très à la mode pour le carnaval. Katharina Blum, une coccinelle VV à l'ancienne.
Bien sûr, années 70.
Pour conduire pendant les nuits pluvieuses, on verra ça plus tard. Un plan des conduits de son immeuble qui va être bien utilisé, une bague de valeur et un revolver. Donc l'intérêt du roman, outre le fait que j'apprécie beaucoup Heinrich Böll en général, c'est qu'il est traité sous forme de reportages, d'interrogatoires, témoignages qui présentent différents angles ou éléments de l'enquête et des descriptions factuelles autour de Katharina Blum, elle-même étant très factuelle, très organisée, très allemande quelque part, je dirais. Et il n'y a que les manchettes du journal qui écrit en lettres capitales, donc le journal, en allemand ça devait être Zeitung. Donc qui,
Bild-Zeitung, ouais,
voilà, pour ne pas dire le Bild, pour ne pas donner le vrai nom, qui est en fait un journal à sensation et qui ont un parti pris, c'est celui de la détruire pour faire du tirage.
Donc, ah ouais, carrément.
Ouais. Donc d'après les interrogatoires, lors d'une soirée dansante en cette période de carnaval à Cologne, le courant passe vraiment entre Katharina Blum et un homme, c'est le coup de foudre réciproque. En fin de soirée, ils partent ensemble et passent la nuit chez Katharina Blum. Au petit matin, la police rentre chez elle pour arrêter cet homme défini comme un criminel. Et bien sûr, l'homme a disparu. On apprend ensuite que depuis un certain temps, c'est un déserteur de la Bundeswehr qui a détourné l'argent des soldes des militaires. Donc la Bundeswehr, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient oublié, c'est l'armée nationale de la République fédérale allemande qui a été mise en place à partir de 1955 et qui est, à la suite des accords de Paris, fait partie de l'OTAN et qui plus tard intégrera l'armée de la RDA au moment de la réunification.
C'est plutôt le contraire. C'est l'armée de la RDA qui intégrera la Bundeswehr. Enfin, bon, je pourrais dire, mais bon.
Ça dépend du Wikipédia.
Bon, enfin, qui a gagné, qui est le vainqueur historique.
Donc, pour résumer l'histoire, alors on peut pas la spolier parce que de toute façon, depuis le début, Heinrich Böll donne la fin.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, ce qui importe, c'est plutôt la manière dont le récit est structuré. Donc à partir de cette soirée, tout bascule pour Katharina Blum et son entourage, sa famille, ses employeurs, ses soupirants, tout le monde bascule dans ce drame. Donc Katharina Blum a 27 ans, elle est gouvernante et fait des prestations de traiteur pour les banquiers privés. C'est quelqu'un qui est hyper organisé, qui fait preuve d'une très grande maîtrise de la gestion, de l'organisation. Et avec sa force de travail et l'aide de ses employeurs, elle parvient à acquérir donc sa coccinelle, acheter un appartement. Parce que ça, c'est important pour la suite. Elle est quand même assez attirante et les hommes ne manquent pas de tenter leur chance, bien sûr, plus ou moins dans les conventions et souvent un peu quand même vulgairement. Tout bascule avec...
C'est méchant de dire ça.
Non, mais je pense que c'est très révélateur de l'époque. C'est un point que tu vas aborder. Ouais. Tout bascule avec l'hébergement de son coup de foudre, donc qu'elle appelle son Ludwig chéri, qu'elle aide à s'échapper pour qu'il puisse fuir la police, et elle va l'aider à se cacher. Donc ensuite, elle est convoquée par la police, comme elle a fait cet acte d'aider à échapper, pour mener une enquête, pour voir si depuis le début, elle ne connaît pas cet homme. Donc à partir de là, le journal s'empare de ça, en disant que c'est la maîtresse de ce criminel, et fait monter la pression autour de toute cette histoire pour la précipiter dans la calomnie. Et tandis qu'elle pense pouvoir faire valoir son droit de citoyenne pour échapper à la déferlante de ce journal, elle comprend qu'en fait, elle ne sera pas épargnée, qu'elle va couler et que finalement, tout le monde trouve ça normal parce qu'il faut faire du tirage. Au fil du temps, plus elle lit les différents numéros du journal, plus les articles sont diffamants, plus ses proches cherchent à la protéger pour la défendre d'elle-même et puis pour lui permettre de remonter un peu tout ça. Mm-hmm. Comment dire ?
De ne pas perdre le moral.
De ne pas perdre le moral, mm-hmm. Exactement. Ouais. Et parce que le journal publie des interviews réarrangées, tronquées, va chercher son ex-mari, s'introduit à l'hôpital auprès de sa mère mourante et finalement arrive à la faire décéder.
Mais il est vraiment comme ça, le build, en vrai ? C'est un torchon comme l'était les
toujours, ouais,
les journaux
c'est très
anglais,
et
la
sensation,
ouais, c'est l'équivalent.
Ouais, toujours. Et puis, ils en arrivent à faire des liens avec le communisme, les troupes de l'époque. Ils impliquent les employeurs qui, pendant, avaient certaines, en tant qu'étudiants, pouvaient participer à des groupes de réflexion, bien sûr. Mmh. Et puis, tout le monde subit cette descente aux enfers. Et toute cette diffamation est finalement menée par une seule personne, qui est un journaliste qui s'appelle Werner Todges, qui alimente cette machine infernale et fait perdre la dignité de Katharina Blum, la déshonore en rédigeant des tissus de mensonges. Et ça n'en finit jamais. Donc là, à partir du moment où sa mère décède, on sent que le cap de l'inacceptable est franchi. Et elle décide de lui accorder une interview pour stopper toute cette malveillance et stopper cette machine. Donc tout le monde est contre cette idée. Et ses proches se disent que ça va mal finir, et ce qui est vrai. Et finalement, elle a rendez-vous avec ce journaliste qui, bien sûr, lui propose la bagatelle. Et finalement, elle lui tire dessus.
Oui, carrément.
Après avoir cherché des remords en vain toute la journée, elle ne trouve aucun remords à ça. Et donc, elle va finir par se dénoncer au commissariat qui était chargé de l'enquête de départ. Donc moi, j'ai trouvé que... Il y avait dans ce roman, outre l'aspect presse, l'aspect trouble de l'époque, de quoi étayer la situation de la femme dans la société des années 70, pas seulement allemande sans doute. Elle était un peu coincée entre l'église et le mariage. Comme elle divorce, elle se met en marge. Elle est en proie à la vulgarité des hommes parce qu'elle est divorcée, donc ça veut dire qu'elle est devenue légère. Et comme elle est assez active, séduisante et travaille, eh bien, on a l'impression que tout est un petit peu permis. Mmh. Donc... dans l'espace de Katharina Blum, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'immiscent, on va dire, et qui tentent soit de la protéger, soit de la séduire. Donc d'ailleurs, elle a une bague de valeur pour obtenir un engagement d'un ami de son patron, ce qu'elle ne fait pas. Elle prend la bague, mais elle ne s'engage pas particulièrement. Et finalement, son employeur, qui est aussi avocat et qui va la défendre, arrive à cette conclusion personnelle que finalement, il est amoureux d'elle. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, Katharina Blum, qui n'exprime jamais aucun sentiment de cette nature-là, finalement rencontre l'homme de sa vie dans une fête dansante. Et elle va aller jusqu'au bout pour le retrouver. C'est-à-dire que, comme elle tue cet homme, elle est en détention. Lui a été arrêté, il est en détention. Et il y a un moment où vraiment elle exprime sa pensée, parce que sinon c'est jamais sa pensée propre, où elle se dit qu'elle est prisonnière, mais qu'elle va sans doute faire un certain nombre d'années. Après, comme elle est exemplaire, elle va aider, donc elle aura sans doute une remise de peine. Et qu'à la fin, elle va à peu près sortir en même temps que son Ludwig chéri, et qu'ils pourront tous les deux se rencontrer. Donc elle n'est pas triste en fait de son sort, c'est ça qui est très intéressant. Pour conclure, à sa sortie, le roman a soulevé toute la question de la société de droit versus la liberté de la presse, la croyance versus la vérité. Et puis, que que devient l'individu dans tout ça? Ben, Heinrich Böll était très positionné là-dessus, sur quand même protéger l'individu. Donc là-dessus, il a fait pas mal d'interviews et d'explications, et aussi ce livre, bien sûr. Et ce qu'on peut dire sur l'auteur, si on l'a oublié, c'est qu'il a eu donc un prix Nobel de littérature en 72. Ce court roman est complètement différent par rapport à ses romans antérieurs, a été très valorisé, en fait. Et son écriture a été utilisée à dessein pour dénoncer les abus du journalisme, d'un certain journalisme, et de faire réfléchir sur la mise en pâture de l'individu et les attentes aussi d'un certain lectorat. Donc la question que tu posais, Bild reste un journal à fort tirage en Allemagne de nos jours.
D'accord.
Donc pour moi, elle a l'étoffe d'une héroïne qui est très dure, puisqu'elle progresse dans la violence jusqu'à l'acte criminel. Et en même temps, elle est très tendre, puisqu'elle a eu ce coup de foudre et qu'elle compte retrouver à la sortie de prison son Ludwig chéri. Donc je vous invite à lire ce roman qui est un classique, qui reste surprenant, qui nous replonge aussi dans l'ancienne Europe. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis dans le style reportage et qui a très peu de dialogue. Et si vous n'avez jamais encore lu Heinrich Böll, n'hésitez pas à le découvrir. Voilà les garçons.
Merci Miss Lemon.
Merci à vous.
Allez, pour finir, Tom Pouce vous entraîne à travers les brumes de l'espace et du temps.
La petite chronique de Tom Pouce. Excursion dans les petits formats de bande dessinée.
Alors, je vous propose aujourd'hui de faire connaissance avec un héros de petit format de bande dessinée qui nous vient d'Angleterre, où il est apparu en 1970 et où il a poursuivi sa carrière jusqu'en 1976 dans plus d'une centaine d'épisodes.
À travers les brumes de l'espace et du temps, erre l'étrange silhouette d'Adam Eternaux, condamné à vivre éternellement, à moins qu'une arme en or ne vienne trancher le fil de ses jours.
Alors, début de chaque épisode, on voit le personnage, Adam Eternaux, flotter dans l'espace au-dessus de la Terre, puis se matérialiser à différentes époques de l'histoire, sans qu'il ait choisi de le faire, mais en fonction d'un but précis qu'il doit découvrir et pour lequel son intervention est nécessaire. Alors, en effet, il a une mission à accomplir qui lui est confiée par le destin, pense-t-il, et qui lui donne un rôle de protecteur, de redresseur de tort. C'est une sorte de sauveur providentiel qui apparaît au moment opportun pour porter secours à quelqu'un qui a besoin d'aide et puis qui repart, ou plutôt se dématérialise, aussitôt sa mission accomplie. Alors, pour vous citer quelques exemples de bonnes actions accomplies par Adam Eternaux, par exemple, à Londres, en 1762, il va sauver de la potence un jeune noble qui est persécuté par un lord. En 1815, il se trouve à Waterloo, où il sauve la vie du duc de Wellington, qui est le général en chef des armées anglaises, je vous le rappelle. Et en 452, parce que ça ne se passe pas dans l'ordre chronologique, eh bien, il se retrouve à aider les Romains à repousser les Huns, les envahisseurs Huns, et il va même être amené à tuer leur souverain, le redoutable Attila, qui, je le rappelle, est mort dans son lit en 453.
D'accord.
Etc.
D'accord. Voilà.
Ma mission en ce siècle est terminée. Je reprends mon errance dans le temps et l'espace jusqu'à ce que le destin me rappelle sur Terre pour redresser des torts.
Donc Adam Eternaux, c'est un personnage plutôt sympathique, mais son dévouement, il résulte en fait d'une faute qu'il a commise dans sa jeunesse. C'est pas un choix de sa part. Alors il était à la fin du XVIe siècle l'assistant d'un alchimiste, et il a bu l'élixir de vie que son maître avait réussi à mettre au point, ce qui n'est pas très gentil, et qui devait garantir au maître la jeunesse durant tout le reste de sa vie.
Et le voilà bien puni.
Donc l'alchimiste, en colère, on le comprend, lui a lancé une malédiction. Il devra vivre éternellement et ne pourra mourir que s'il est frappé par une arme en or massif.
Okay.
Et donc Adam Eternaux va vivre plusieurs siècles. Il va à peu se lasser de la vie éternelle, parce que c'est barbant à la longue.
C'est long à la fin, surtout.
Et jusqu'à ce qu'en 1970, eh bien, il soit renversé par une limousine plaquée or.
c'est trop fort. Celle-là.
Et là, il se retrouve à errer dans l'espace, sous une forme dématérialisée. Et il va être rappelé périodiquement sur la Terre, comme je l'ai déjà évoqué.
Vers quelle aventure le destin va-t-il m'entraîner en me rappelant au monde des vivants? Quelles injustices, quels démons vais-je devoir combattre?
Donc au physique, si on fait le lien avec la chronique de Miss Lemon, eh bien c'est un solide gaillard vêtu en toutes circonstances, il se change jamais, d'une chemise, d'un pantalon déchiré à mi-mollet, de bottes et d'une cape.
Mais il doit être dépareillé alors quand il arrive.
Ah, oui, tout à fait, il est tout à fait décalé. Ouais. Alors il a les cheveux longs, il a une seule arme, c'est un poignard, auquel il préfère généralement ses poings, utiliser ses poings, parce que en fait il est doté d'une force peu commune et surtout il est invulnérable. Ah, et d'ailleurs heureusement pour lui, parce que à chacune de ses aventures, eh bien il aurait péri plusieurs fois, il serait mort plusieurs fois s'il avait été le commun des mortels, ce qui n'est pas le cas. Alors, les coups ne l'assomment pas, les chutes depuis une hauteur même vertigineuse ne lui font aucun mal, les balles ne le traversent pas, les armes tranchantes rebondissent sur la peau, le feu ne le brûle pas, et il a beau être piétiné par des chevaux, écrasé sous les décombres d'un bâtiment en pierre, attaqué par des alligators, il est invincible. Ses adversaires le croient tout bonnement sorti des enfers. Alors, il a un point faible quand même, comme le héros grec Achille. Eh bien, c'est l'or, qu'il considère comme étant le métal du diable. Un métal qui l'éblouit, l'affaiblit et peut même le tuer.
C'est sa kryptonite. Hein.
Ouais, tout à fait. Alors, malheureusement pour lui, il va rencontrer fréquemment l'or, et cela au moins une fois par épisode. Donc, sous différentes formes, parfois les plus improbables, comme la boucle d'un soulier contre laquelle il se cogne, les pointes d'un coup de poing américain dont on le frappe, un fléau d'armes en or et même un lézard gigantesque recouvert d'or. Alors chaque épisode est une trépidante aventure remplie de combats sans aucun temps mort. On est admiratif en fait devant l'énergie du personnage qui se consacre entièrement à sa mission. Et le pauvre n'a même pas le temps de flirter. Mais c'est tant mieux, parce qu'en fait, il n'y a strictement aucun personnage féminin, de second ou d'arrière-plan, dans cette bande dessinée. Aucun personnage féminin.
Incroyable.
Et donc, une bande dessinée qui vise probablement un lectorat masculin, vous l'aurez deviné.
Le lectorat masculin, il a bien envie de voir des personnages féminins.
Voilà. Alors, je termine très rapidement en mentionnant l'un des épisodes les plus extravagants de la série, où Adam Eternaux se matérialise dans un Londres du futur. La ville commence à tomber en ruine. Il y a des hommes, mais revenus à un stade primitif, qui côtoie des animaux préhistoriques, des dinosaures, des ptérosaures, mais aussi des chevaliers du Moyen-Âge et même des robots qui obéissent à un cerveau artificiel qui se trouve dans un vaisseau spatial qui a été détraqué par le choc de l'atterrissage. Et c'est ce cerveau qui va créer cette pagaille temporelle dans Londres.
C'est un vrai bordel.
Alors ne ratez pas Adam Eternaux, à découvrir en français dans le mensuel Janus Stark des éditions Mon Journal, numéro 34 à 42, paru en 1981-1982. Ça veut dire quand même qu'à cette époque-là, on croyait encore à tout ça, c'est bien.
Alors, il est grand temps de nous quitter. Ne manquez pas de consulter notre podcast sur radio-calade.fr, rubrique émissions culturelles, où vous retrouverez les références des ouvrages dont il a été question, ainsi que des informations complémentaires pour les plus curieux. Et vous pourrez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. On se donne rendez-vous le mois prochain avec suite et fin de notre archéologie policière et avec l'équipe des chroniqueurs qui a préféré garder pour secret
le mystère.
Les thèmes qu'il abordera.
Ils ont gardé le mystère.
Oui, tout à fait.
Voilà. Merci à tous. Et
merci,
à bientôt.
À très bientôt.
À plus.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.